Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Olivier, vous êtes là ?
Oui.
Ah,
oui.
Bonsoir,
oui,
je ne vous entendais pas. Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Bonsoir Caroline. Ça fait bizarre de vous avoir au téléphone.
Ah ben oui, ça fait toujours ça un peu les premières minutes. Puis vous allez voir, après, on va se parler
oui.
Tranquillement, j'ai, pas tous les deux, mais...
Je suis adepte de RTL, donc je connais quelques collègues à vous, dont Georges Lang.
Ah oui, bien sûr.
Nous avons déjà discuté ensemble.
Avec Georges ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Voilà. Mais vous lui dites, vous parlez pas des mêmes sujets avec Georges et avec moi.
Non. On est plus un peu plus rock'n'roll.
Rock'n'roll. Bon, mais il vaut mieux que vous en parliez avec Georges qu'avec moi, parce que j'y connais pas grand chose. Et avec moi, vous voulez parler de quoi ? De sexe ?
Alors, comment vous expliquer ? Ça va pas être facile.
Ah, je vous tendais un peu la perche, hein, si je puis dire.
Oui, non, bien sûr, j'entends bien. J'arrive à ma 50e année.
Oui.
Ce qui m'a interpellé pour vous appeler, Caroline, c'est que j'ai été interpellé par le témoignage de Karine. Que vous avez eu dernièrement dans le monde du libertinage.
Oui.
Voilà. Et donc je suis aussi dans ce domaine-là. Mais en parallèle, j'ai toujours été en marge d'une société, droite dans ses chaussures. Comme on pourrait dire.
Mmh.
Et j'ai toujours été à côté parce que j'estimais, pour moi, de vivre cette vie assez spéciale pour certaines personnes.
Quand vous parlez de vie spéciale, c'est-à-dire que vous faites référence au libertinage ?
Au libertinage, bien sûr.
Parce que Karine, c'est vrai, nous avait appelé sur un aspect assez précis du fait qu'elle, alors qu'elle était libertine, elle parlait d'ailleurs non pas de couple mais de binôme. Finalement, la jalousie avait fait irruption chez elle par rapport à cet homme qui lui parlait d'une autre femme. Et là, la jalousie, elle ne savait pas comment faire. Comment composer avec ce sentiment de jalousie ?
Alors, c'est pour ça que j'ai très bien compris son témoignage. Je suis moi-même, j'appréhende que le cœur parle au niveau d'une partenaire.
Oui, ça vous est arrivé déjà ? Vous dites vous appréhendez.
Alors, ça m'est arrivé et malheureusement, ça n'aboutit jamais à rien.
C'était pas réciproque, vous voulez dire ?
C'était pas réciproque, bien
D'accord.
sûr. Bien sûr. Et
mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que tout en pratiquant le libertinage, au fond, il y a une part de vous qui recherche aussi, peut-être, éventuellement, autre chose.
Il y a une
attente.
Alors, bien sûr, une partenaire qui ait le même sentiment que moi, au niveau... de cette activité.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a la même fantasmatique qui voudrait...
Et donc, un peu comme Karine, former un binôme. Pourquoi pas ?
J'ai appris une chose, c'est que dans le libertinage, on ne parle pas de couple, mais de binôme.
De binôme, oui, tout à fait, oui.
Maintenant, quand j'entendrai ce terme, parce qu'on l'utilise parfois, ou pas en politique, mais enfin, je l'ai entendu dans des débats, je vais penser à vous.
Ouais.
Et ça va me faire sourire intérieurement. Dans le monde sportif, je crois, on en parle parfois. Enfin, c'est un terme qu'on utilise.
Oui, dans l'armée aussi.
Et dans le monde du travail aussi.
Et dans le monde du
travail. Dans le monde du travail, on le dit. Voilà.
Oui, parce que justement, moi, j'ai un binôme. Dans le monde du travail.
D'accord.
Aussi.
D'accord. Vous avez un binôme sexuel et un binôme professionnel.
Professionnel, oui, tout à fait.
D'accord.
Ça s'arrêtera là, d'ailleurs, avec le binôme professionnel.
D'accord.
Voilà. Mais Bon, pour vous dire aussi que mon appel est sur une énorme inquiétude.
Oui.
J'arrive, comme je vous l'ai dit, j'arrive à un âge de 50 ans.
Et, oui.
Et alors, c'est un peu comme Maxime. C'est la panne, mais c'est une panne continue. Voilà.
D'accord.
Et j'ai peur, j'appréhende énormément tout ce qui est en rapport avec la médecine et qui m'annonce de mauvaises nouvelles.
Ah voilà, oui, vous avez du mal à aller voir un médecin, de façon générale.
Oui, j'ai très peur.
Vous êtes angoissé, vous êtes très angoissé. Par...
c'est pas une angoisse, c'est
une phobie.
Comment dire, une phobie, oui. C'est, je ne veux pas savoir ce qui...
Oui, mais ce que vous imaginez pire, vous pensez à quoi, vous pensez
à un cancer.
Vous avez d'autres symptômes?
Alors, je suis, abîmé.
Oui.
J'ai un passé assez tumultueux.
Oui.
Qui a fait que mon corps, maintenant, il en empathie.
Oui.
Et donc, je crois que...
Oui, vous n'avez pas vraiment pris soin de vous, vous voulez dire dans,
Oui, bien sûr. Enfin,
vous avez une mode
bien sûr,
de vie.
Non. Oui, voilà, j'ai un mode de vie assez... Comme je disais à Paul, à 17 ans, je suis parti de chez moi.
Oui.
Et je me suis pris en main tout seul. Voilà.
Et, oui. Mais comment
et
alors parce que...
Alors comment par errance.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
J'étais SDF pendant beaucoup d'années.
Oui.
Je me suis réinséré socialement et professionnellement parlant, ce qui a été un dur labeur pour moi.
J'imagine. Il vous a fallu une. Je ne sais pas d'ailleurs comment on passe de la rue si jeune finalement à retrouver un moment une place et retrouver une place dans la société.
20 ans plus tard, oui. 20 ans plus tard.
Vous avez fait 20 ans dans la rue
oui.
ou dans des squats
oui.
ou.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et donc je me
et
suis.
Et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous à un moment? Parce que c'était la rue, enfin, 20 ans, on ne peut même pas imaginer. Déjà un mois, une semaine dans la rue, c'est énorme. Donc 20 ans, D'ailleurs, vous avez commencé en parlant du libertinage, en disant, j'ai pas été quelqu'un, enfin, je ne suis pas quelqu'un qui est droit dans mes bottes. Ou non. Vous avez toujours un peu fui
alors,
le système.
Oui.
Je comprends mieux maintenant vos propos, parce que je n'avais pas tellement le rapport
voilà.
avec le libertinage,
voilà.
mais je comprends
voilà,
mieux.
Tout à fait.
Oui.
Donc,
comment, quand on est si marginalisé, à un moment, on peut, gravir.
Enfin,
oui. Comment on peut retrouver, dire, tiens, aujourd'hui, je vais chercher du boulot, je vais. Ça serait une autre histoire.
La volonté.
Oui, mais oui.
La volonté et la jalousie des gens qui sont bien autour, que je voyais autour de moi. Et devenir comme eux. Voilà.
Ah oui, ça a été des.
Voilà.
Donc il y a eu des rencontres qui.
Il y a eu des rencontres.
Donné envie de.
Bien sûr,
à nouveau
des
de vivre. Oui.
Des personnes s'approchent auprès des personnes qui, d'autres personnes qui sont
oui.
complètement à part.
En errance, c'est. Le
en
terme.
Errance.
Oui.
Et d'ailleurs, la Croix-Rouge en fait partie. Hein. C'est les maraudes sont là pour ça aussi, discuter. Et puis, en fin de compte, à force de discuter, ça donne envie.
C'est formidable ce que vous dites, parce que je pense à... C'est vrai qu'on les voit, ces personnes. Moi, je vois la nuit quand je pars. Et je me dis, c'est formidable, ce sont des hommes, des femmes, parfois jeunes, hein, des bénévoles.
C'est ça. Avec des identités.
Oui, pardon.
Allez-y.
Mais je me dis, il y a des moments où ça doit être très désespérant d'être confronté à toute une si grande souffrance, une si grande solitude. Et en même temps, quand on vous entend, ça sauve tout de dire au fond, voilà, il y a eu des mains tendues, il y a eu des paroles, et quelque chose qui à nouveau peut s'ouvrir. C'est très gratifiant pour toutes ces personnes
ça,
qui donnent leur
fait.
Temps et de leur énergie.
Ah mais c'est tout à leur honneur même d'ailleurs. Parce que bon, c'est un domaine très psychologique
et humain.
Donc, quand on reconnaît l'être humain dans toute sa valeur et sa splendeur aussi, parce que des gens dans la rue sont, il n'y a pas que des incultes ou quoi que ce soit.
Non, bien sûr.
Voilà, j'ai rencontré des personnes qui étaient assez haut niveau professionnellement parlant. Mais même entre nous, nous discutions et nous avons découvert d'autres passions l'une envers l'autre. Et moi, je me suis ouvert à certaines personnes qui étaient aussi dans la rue, et, mais psychologiquement, et par la parole, par la découverte des choses, et la curiosité aussi, parce que je suis très curieux. Et donc, le plaisir de partager, c'est mon objectif de la vie de maintenant.
Alors, on en est venu
à
parler de votre parcours, de ces années d'errance, et aujourd'hui, à nouveau, donc, vous avez retrouvé une place, vous êtes. Mais vous dites votre corps en garde des traces, oui. Vous dites qu'il est abîmé, et vous avez très peur, au fond, il y a presque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu un médecin?
Alors, un médecin, mon médecin standard, c'est
vous avez un médecin. Mois. Ah, quand voilà. Même, vous allez voir votre médecin voilà. Traitant.
Oui, parce que pour me re-sociabiliser, il a fallu avoir un traitement psychotrope.
D'accord.
On ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça.
Anxiolytique, antidépresseur, bien sûr.
Et qui diminue d'année en année.
C'est bien.
Avec une adaptation sans souci et sans aléas. Quoi.
Oui, surtout, progressivement, vous diminuez.
Progressivement, intelligemment aussi, parce que bon, on n'arrête pas un traitement comme
non.
ça.
Non, et puis, il n'y a pas d'automédication. Vous avez trouvé donc un bon médecin à votre écoute qui vous...
Oui. Alors, comme j'ai dit à Paul, je suis un oiseau de nuit, je travaille de nuit.
D'accord. Je peux vous demander ce que vous faites ou c'est indiscret?
Je suis routier.
Vous êtes routier, d'accord.
Voilà. Je suis fier de faire ce métier-là parce que j'alimente la France. Voilà,
qu'est-ce que vous transportez?
Là, c'est de l'alimentaire.
D'accord. Vous avez un frigorifique, alors?
Alors, frigo, oui, mais là, pour l'instant, c'est du sexe. J'ai moins de la brioche.
Voilà. Oh, c'est pas vrai. Ne me parlez pas de brioche à cette heure-ci. Avec un petit café crème, là.
Et voilà,
faites pas un petit détour par Neuilly, là, tout à l'heure.
Non, du tout. Je vais
J'adore
à Lyon.
J'adore ça, la brioche. Vous allez à Lyon, d'accord. Pour ça que je regarde l'heure, parce que je sais que c'est sur le temps de votre pause là que vous m'appelez. C'est très limité. Alors, c'est pour ça que vous devez repartir à 40, hein, c'est ça, m'a dit Paul.
Dans une demi-heure.
Ah, il est 23h23. Alors on va pas trop digresser, parler de brioche et autres. On va revenir sur vous, mon cher Olivier. Donc déjà c'est bien si vous avez un médecin traitant qui vous connaît bien et avec qui vous abordez. Vous allez pas le voir, voyez, pour une angine, une bronchite.
Il connaît votre parcours.
Le fait que vous avez eu à un moment eu besoin pour vous resocialiser, retrouver de recours à des anxiolytiques, antidépresseurs. Et alors, par rapport à ce problème d'absence d'érection qui vous préoccupe, et c'est bien compréhensible, c'est compliqué de lui en parler?
Oui, un peu. J'ai fait un gros effort à vous parler.
Oui.
Parce que
vous en parlez plus.
Je vous écoute tout le temps.
Oui.
Et j'ai un mal-être qui s'installe avec ce fameux souci.
Oui, ça vous angoisse. Depuis combien de temps ça, vous avez constaté ça?
Ça va faire un peu plus d'un an.
Un peu plus d'un an.
Ouais. Voilà.
Et ça veut dire que vous n'avez même plus d'érection au réveil?
Non.
D'accord.
Non.
Oui. Alors.
Après, ça reste médical. Je le fais.
Vous êtes en train d'imaginer le pire. Vous pensez à un cancer. Alors qu'il y a de multiples causes à cela.
D'accord.
Il faut faire un petit bilan là, tout simplement.
Ouais.
Ça vous fait peur?
Et c'est le résultat qui me fait peur.
Oui, c'est le résultat.
Parce que j'ai relevé la tête depuis que je suis sorti de la rue. J'ai réussi à relever la tête, à me faire une vie. J'ai 3 enfants. J'avais fondé une famille. Voilà, j'avais tout réussi. Et si on veut rien m'annoncer que tout s'arrête, je...
Oui, ça serait trop injuste, vous dites, alors que vous êtes dans une phase... Voilà. Mais attendez, là, c'est comme si... Je comprends. Enfin, je comprends. Oui, il y a la peur. Il y a la peur comme si on allait vous annoncer quelque chose de grave et comme si, au fond, tout se paye. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de cette dimension-là. Oui. Et en fait, vous vivez mal avec ça, Olivier.
Oui.
Parce que finalement, parfois, vous savez, ce qu'on imagine est pire que la réalité.
C'est ça.
Or, là, c'est long de rester un an avec une angoisse comme ça. Mais ça veut dire puisque... Oui, pardon.
Je suis miné. Hein.
Je comprends. Et vous savez, l'angoisse, ça fait très mal. Hein. Ça fait mal, enfin, je ne sais pas si, bon, ça fait mal physiquement. Ça peut même vous donner des symptômes, hein. Quand vous dites vous êtes miné, c'est-à-dire...
Justement, oui. j'ai des douleurs dans tout le corps qui sont survenues depuis un petit peu moins d'un an. Et,
vous êtes très tendu, très anxieux.
C'est ça.
Oui. C'est dommage de rester comme ça. Mais en même temps, vous voyez, je vous écoute et je me dis... j'en parlais récemment... En tant que femme, et les auditrices me comprendront, on est habituées, nous, dans notre vécu de femme, d'aller voir un médecin, y compris sur le plan gynécologique. Parce qu'une femme, tout au long de sa vie, elle est amenée, de par son corps de femme, à consulter. Ça va avec la jeune fille, les premières règles, il y a les états de grossesse, il y a après la ménopause. Enfin, il y a, si vous voulez, donc le fait d'aller voir un médecin spécialisé gynécologue et de montrer ses organes génitaux, ça fait partie de la vie d'une femme. Chez un homme, c'est vrai que ça reste beaucoup, c'est moins fréquent. Et on voit bien d'ailleurs des hommes qui sont confrontés, l'âge avançant, avec des problèmes parfois de prostate, ont beaucoup de mal et laissent passer beaucoup de temps avant de consulter. Et il peut y avoir des problèmes de prostate qui ne sont pas des problèmes, ce n'est pas toujours lié à un cancer. Et quand bien même d'ailleurs il y a quelque chose de l'ordre de cancéreux, ça se traite. Et en prenant l'hypothèse du pire, entre guillemets, parce que je dis ça se soigne, hein, ça se traite, le cancer de la prostate. Moi, je suis pas médecin, donc je suis pas en train de vous dire que c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous savez bien que, justement, le temps, laisser passer du temps, c'est pas bon. Si on est dans cette dimension-là, il vaut mieux, au contraire, réagir assez vite. Mais encore une fois, ce qu'on va vous faire avant, c'est aussi, on peut faire un bilan hormonal, enfin, on fait un bilan comme d'un homme à la cinquantaine. Voyez ? On peut vous faire une prise de sang, on peut vous faire un bilan. Et déjà, votre médecin traitant peut être de très bons conseils. C'est un homme. Il a quel âge, à peu près ?
Je sais pas, 60 ans.
Eh bien alors, il connaît ces problèmes-là. Hein. Enfin, il connaît, parce que vais vous dire déjà, à partir d'un certain âge, les érections, elles arrivent moins spontanément, elles sont moins vigoureuses que quand on a 20 ans. Enfin, j'aime bien, je vous dis ça comme si je savais de quoi je parlais.
Mais vous avez tout à fait raison.
Non, mais vous voyez, un adolescent, il va voir passer, je sais pas, quelque chose, une image qui va le stimuler, ça part tout seul. Bon, à 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il faut plus de temps.
Dieu sait que j'essaye de me motiver par, comme vous dites, des images.
Oui, des vidéos, des images, rien. Vous n'avez rien.
Mais rien. Voilà, rien. Plus rien.
Oui, alors même par rapport à ce que vous me, à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire votre pratique du libertinage, ça veut dire que
oui, voilà, vous c'est un peu handicapant.
Comme, oui, vous n'allez plus, vous n'allez.
Ben, voilà, je suis refusé. Enfin, c'est.
Comment ça, refusé?
Enfin, voilà, quand il y a des rencontres ou quoi que ce soit. J'explique mon problème et puis ben, voilà,
c'est horrible.
C'est pas forcément accepté.
C'est pas. Ouais. Mais dites-moi, c'est rude, je trouve. Enfin, c'est pas. Ah oui, dans. Parce que vous avez le courage. Enfin, je trouve que c'est courageux de votre part de dire. Voilà,
du problème. Oui,
et on vous dit ah ben non, en gros, vous n'avez pas d'érection,
voilà.
C'est ok. C'est voilà. Terminé, quoi. On ne vous accepte pas.
Voilà, tout à fait.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait... Oui, c'est un peu rude, je trouve. Parce qu'après tout... Donc, vous n'avez plus de vie...
Ce n'est pas rassurant, je peux vous le dire. Ce n'est pas rassurant, ce n'est pas... C'est pas... Ça n'inspire pas la quiétude.
C'est très... Pour justement, sur le principe des libertins, cette curiosité, cette ouverture, c'est hyper normé. Hein. Hyper normé, ouais. Presque stéréotypé. Quoi. En dehors de la pénétration, point de salut, voilà. Si je comprends bien. Plus d'érection, donc vous ne faites plus partie du club.
C'est ça.
C'est hyper normatif, quoi. En fait, pour des gens qui se disent justement ouverts, pas taboulis, enfin, vous voyez, le propre même alors, des libertins, si on...
Oui, bien sûr.
Si, enfin, même dans le courant historique, c'est waouh, c'est... on n'est pas là pour... ça va
sûr.
Au-delà de ce débat-là et faire un débat sur le libertinage, mais je trouve que c'est même un non-sens. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Cela dit, alors, pour vous, franchement, c'est bien que vous ayez appelé Olivier ce soir. C'est vrai que peut-être c'est plus facile aussi parce qu'on ne se voit pas. Votre médecin traitant, vous le connaissez et vous savez, je crois que beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent peuvent comprendre parce qu'il y a des hommes qui sont en confiance avec leur médecin traitant, mais quand ils ont un problème de cet ordre-là, n'osent pas lui en parler. Il faut vous dire, c'est un médecin avant tout. Donc lui, il ne va pas vous porter, vous voyez, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation d'homme à homme, vous voyez, c'est un regard de médecin. Et là, par rapport à ça, il va vous indiquer la marche à suivre. Peut-être déjà vous donner quelques petits examens à faire, et certainement, plus vraisemblablement, vous orienter vers un médecin andrologue, urologue, qui est le pendant des gynécologues pour nous les femmes. Et là aussi, c'est pareil.
Démarche,
oui.
La démarche normale, quoi, de savoir ce qu'on a ou pas.
C'est ça. Et de ne pas rester avec quelque, enfin, qui vous rend, de ne pas rester avec quelque chose qui vous rend malheureux en plus, qui vous angoisse.
Oui, parce que j'ai encore cet après-midi au réveil, j'ai pleuré, je l'avoue.
Mais parce que vous avez peur.
J'ai pleuré parce que je suis triste de ne plus avoir été l'homme que j'ai été. Et peur aussi de savoir... d'apprendre de nouvelles.
Oui. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes comme vous, d'ailleurs, hommes ou femmes, qui développent une véritable peur, voire phobie du médecin, qui ont des symptômes et qui ont tellement peur qu'on leur annonce quelque chose de terrible, ils ne font pas la démarche. Alors que, en fait, justement, alors. En plus, je vous dis, vous avez la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'est cancer. Vous pouvez avoir bien d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec cela. Et peut-être ce que vous allez faire en premier lieu, c'est pousser un grand soupir de soulagement. Ce que j'espère pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous trouver face à un médecin qui va dire, écoutez, monsieur, on fait ça, voilà, j'ai votre bilan. Bon, on va vous aider en partie. Il y a ça, il y a peut-être un problème aussi hormonal, il y a peut-être des choses. Et vous allez vous retrouver. et déjà plus à vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors je vois qu'il y a des réactions qui arrivent sur la page Facebook, Paul, c'est bien ça?
Oui, pour des femmes Olivier. D'ailleurs, que des femmes.
Des femmes, d'accord.
Ah,
il
oui. Y a Moune qui dit, bah, c'est vrai qu'après un parcours comme le vôtre, ce serait dur, mais ne perdez surtout pas de vue que quel que soit votre problème, plus vite il sera pris en charge, plus vite il mais sera oui. guéri. Oui. Et Patricia qui soulève peut-être les antidépresseurs ont un gros impact sur la libido. Parce que, alors on parlait tout à l'heure de cancer, ah, de vrai. Prostate, mais il y a des problèmes circulatoires, le cholestérol, il y a plein de raisons pour
fait.
Lesquelles il peut y avoir des
du diabète, des problèmes, effectivement,
exactement.
Des problèmes circulatoires.
Donc il y a
oui.
plein de choses et qui peuvent se régler. Il y a Marie-Thérèse qui dit ah, vous avez peur d'être malade. Moi, j'ai plutôt l'impression que votre corps et votre tête, votre cœur commencent à se parler, voudraient un peu fonctionner ensemble. Le libertinage, ça vous a permis de tenir à distance des sentiments, mais peut-être que votre formidable parcours a besoin de tendresse, d'amour. Et elle ajoute plus tard, plus vous parlez de libertinage, plus je me demande si vous ne faites pas un rejet. Vous êtes très touchant, dit Marie-Thérèse. Et il y a Sylvie qui dit, moi je suis secouriste à la Croix-Rouge depuis 25 ans et je fais des maraudes le soir. Et je suis très heureuse que vous ayez pu vous en sortir et tout ouais. mérité pour vous.
Ouais, ben oui, merci à elle aussi d'être une maraude.
Il y a l'homme au camélia qui dit le problème n'est-il pas de ne se présenter que sexuellement, il doit bien y avoir de l'individualité au-dessus du pénis, un peu de cœur et d'âme, grand Dieu, et il y en a dans votre parcours. Alors c'est très joli ce que vous disent là les auditrices, c'est vrai que quand même quand il n'y a pas d'érection du tout, comme vous dites, même mécanique finalement hein, c'est pas que dans la tête,
oui,
mécanique
oui, oui.
on voit bien même à la vue d'images ou matinales ou autre. Bon, il faut voir, mais il n'y a pas que le cancer. Hein. Oui. Il y a plein d'autres... Oui, Paul,
bah oui, il y a Claude là, qui dit, moi j'ai hésité à faire des examens et aujourd'hui, à 56 ans, je ne regrette pas de l'avoir fait. Oui. J'ai eu des petits soucis, heureusement soignés, maintenant tout va bien, faut que vous le fassiez, absolument.
Et ce qui est bien, même peut-être pour votre état général, parce qu'il peut y avoir, effectivement, ça peut être circulatoire, ça peut être d'ordre du diabète, ça peut être... il y a plein de choses, et finalement, à travers ce symptôme qui s'exprime au niveau de votre sexe, il peut y avoir autre chose qui a besoin d'être un peu pris en charge aussi. Vous voyez ? Donc là, en fait, vous attendez, plus vous vous angoissez, ça vous rend malheureux, vous avez l'impression de ne plus être un homme, alors que comme le disent les auditrices, au vu de votre parcours, ben, vous êtes un sacré bonhomme, parce que vous avez fait un sacré Merci. Chemin, vous voyez ? Il y a quelque chose au niveau de l'ouverture du cœur et de l'âme qui compte, alors... J'en oublie pas le sexe, parce qu'effectivement, c'est pas réducteur, c'est aussi pour vous dans votre identité, pour un homme, malheureusement, enfin, ne plus arriver à fonctionner, j'aime pas ce terme, mais beaucoup se dépriment, donc il s'agit pas de minimiser cela, mais ne restez pas. Dans cette attente, maintenant, est source de stress, d'inquiétude et d'angoisse. Donc, il faut en parler. Et franchement, vous allez voir votre médecin traitant, une fois que vous allez faire le cap, vous lui dites, dire, écoutez, docteur, il y a une chose dont je vous parle, voilà ce qui se passe. Là, il va vous parler comme un médecin. Il est pas, vous n'êtes pas d'homme à homme, là, voyez. Vous ne faites pas un concours. Voyez, alors malheureusement, les réactions que vous avez eues dans le milieu libertin ne vous ont pas aidé et sont extrêmement choquantes. C'est en gros, plus les réactions, t'es exclu, mon vieux. C'est voilà. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, quoi. Hein. C'est Romain Gary, c'est fou. Mais le médecin, lui, il est pas là pour ça. Et quand vous allez voir, s'il vous oriente vers un andrologue, urologue, lui, c'est son quotidien. Donc, je veux dire, lui, il va vous voir arriver, c'est son travail. Et si ça se trouve, c'est pas grand-chose. Donc, quel dommage de rester comme ça, dans cette attente et dans cette angoisse, Olivier. Parlez-en, n'attendez plus, là. N'attendez plus, Olivier. Vraiment. Si vous avez du mal à le dire à votre médecin, vous lui envoyez un petit mot. Vous lui mettez un petit mot.
Ouais.
Mais vous allez y arriver. Et franchement, Olivier, vu votre parcours, vous avez fait plus dur. Hein. Franchement, ça c'est de la gnognotte. Pas ce que votre symptôme, hein, pas ce que vous vivez, mais vous avez fait beaucoup plus dur. Hein. Franchement.
C'est la peur de la rechute, c'est ça.
Non, mais il n'y a pas un prix à payer. Il faut aussi que vous enleviez quelque chose, là. Comme si, vous voyez, il y a quelque chose de... Ça doit se payer, quoi. Bah, votre corps, il est abîmé, vous êtes là, et votre tête, elle n'est pas abîmée, et vous tenez le coup, et finalement, ça va, vous êtes debout, et vous me parlez ce soir. Et il y a du désir encore en vous. Donc, c'est ça qui compte. Voyez ? Vous me rappelez ? Après la consultation.
Oui.
Je veux un compte-rendu. Oui.
Très bien, Caroline.
Ah oui, oui, Olivier, on ne vous lâche pas, je compte sur vous, hein. Un compte-rendu de la consulte, hors antenne, hein, bien sûr. On préservera le secret médical. Hein, mais je compte sur vous pour que vous nous donniez de vos nouvelles. Hors antenne, hein, si vous voulez, bien sûr. D'accord ?
D'accord.
Caroline. Allez, 23h40, je vous laisse repartir. Hein.
D'accord.
Bonne route.
Merci.
Et j'espère la tête un peu plus légère. Prenez vite rendez-vous et parlez-en. D'accord ?
J'écoute.
Je vous embrasse, Olivier. Okay. Bonne route. Soyez prudents.